just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Passeurs de mémoire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de
Rida
et de
Maxence.
Et aujourd'hui, on va vous parler du procès de Adolf Eichmann.
Dans sa cage de verre à l'épreuve des balles, Eichmann, une silhouette banale. En face, trois juges. Rien de spectaculaire. Nous sommes cependant peut-être devant le plus énorme et le plus étrange procès de l'histoire. Car sous les phrases sans relief de l'acte d'accusation, ce sont 5 millions de juifs qui parlent, 5 millions de morts. Car Eichmann fut, dans ce qui fut appelé l'ordre nazi, celui qui eut pour mission d'organiser la solution finale du problème juif.
Alors Adolf Eichmann était un haut responsable nazi qui a joué un rôle très important dans l'organisation et la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Effectivement, et plus précisément, il s'occupait de la logistique. En gros, il organisait les trains qui transportaient les juifs vers les camps.
Donc même si ce n'est pas lui qui a décidé du génocide, il a quand même joué un rôle essentiel dans sa mise en place.
Exactement. Après la conférence de Wannsee en 1942, où les dirigeants nazis coordonnent la solution finale, son rôle devient encore plus important.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la guerre, contrairement à d'autres dirigeants nazis, jugés comme lors du procès de Nuremberg, Eichmann a réussi à disparaître.
Du coup, pendant plusieurs années, personne ne sait vraiment où il est, ce qui va lancer une longue traque pour le retrouver.
Donc effectivement, après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, beaucoup de responsables nazis essayent de fuir l'Europe pour éviter d'être jugés.
Lui aussi réussit à s'échapper. Il utilise des réseaux d'exfiltration qui permettent à certains nazis de partir vers l'Amérique du Sud.
Oui, et finalement, il arrive en Argentine en 1950 et il vit sous une fausse identité, Ricardo Clément.
Pendant plusieurs années, il mène une vie assez discrète avec sa famille.
Mais petit à petit, des chasseurs de nazis commencent à enquêter sur lui.
Et c'est là que le service secret israélien, le Mossad, décide d'intervenir.
L'opération est organisée par le chef du Mossad, Isser Harel.
Et les agents surveillent Eichmann pendant plusieurs jours pour être sûr que c'est bien lui.
Finalement, le 11 mai 1960, il l'arrête près de Buenos Aires alors qu'il rentre chez lui après le travail.
Ensuite, il le cache pendant quelques jours avant de le faire sortir clandestinement d'Argentine pour l'emmener en Israël.
Je suis sur la piste d'un grand ennemi de notre peuple. Adolf Eichmann,
l'architecte de la solution finale.
On a perdu sa piste en 1946. Nos renseignements ont découvert qu'il était à Buenos Aires.
Ce type a convaincu des rabbins de remplir les trains eux-mêmes sans utiliser la force.
Si c'est bien lui, il nous faut une équipe d'élite.
Je suis contre ce genre d'exécution.
J'aimerais lui mettre une balle entre les deux yeux, mais c'est pas ce qu'on va faire.
C'est une simple extradition. Eichmann sera jugé ici, en Israël.
Pensez au symbole. On pourrait publiquement enfin confronter l'homme qui a organisé notre génocide.
Durant le procès, une fois capturé, Eichmann est envoyé en Israël pour être jugé. Le procès commence le 11 avril 1961 à Jérusalem.
Ce qui est particulier, c'est que le procès est filmé et retransmis dans le monde entier.
Donc, pour la première fois, beaucoup de gens entendent directement les témoignages des survivants de la Shoah.
Le procureur principal s'appelle Gideon Hausner et son objectif est de montrer l'ampleur des crimes nazis.
Plus de 100 témoins viennent raconter ce qu'ils ont vécu, les ghettos, les déportations et les camps.
Eichmann, de son côté, essaye de se défendre en disant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres.
Il se présente aussi comme un simple fonctionnaire qui appliquait les décisions du grand régime nazi.
Cette attitude va inspirer la philosophe Hannah Arendt qui parle de la banalité du mal.
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque.
So Eichmann, for instance, was bothered never by anything which he had done to the Jews.
Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs.
Finalement, après plusieurs mois de procès, Eichmann est reconnu coupable de crimes contre l'humanité.
Il est condamné à mort.
Et il est exécuté en 1962.
À Jérusalem, Adolf Eichmann, condamné à mort pour l'extermination de 6 millions de Juifs, a pris place une nouvelle fois dans la cage de verre du palais de justice de Jérusalem, la dernière. C'était en effet pour entendre prononcer le rejet de son appel par le juge Silberg au nom de la Cour suprême israélienne. Rien ne sauverait plus Eichmann désormais. Deux jours plus tard, la grâce lui était refusée et la peine immédiatement appliquée. C'était pour la potence qu'Eichmann quittait sa cage de verre. Le bourreau a payé, si l'on peut jamais payer pour pareil crime.
Les conséquences de ce procès ne concernent pas seulement Eichmann, il va aussi avoir des conséquences importantes.
Et par exemple, avant les années 1960, la Shoah était encore assez peu présente dans les débats publics.
Oui, effectivement, beaucoup de survivants parlaient peu de ce qu'ils avaient vécu.
Avec le procès Eichmann, leurs témoignages deviennent beaucoup plus visibles.
Mais heureusement, les images du procès sont diffusées dans plusieurs pays, donc des millions de personnes découvrent ces récits.
On peut donc dire que ce procès joue un rôle important dans la construction de la mémoire de la Shoah.
Et il nous rappelle aussi que les crimes contre l'humanité peuvent être jugés même longtemps après.
Pour conclure, le procès d'Adolf Eichmann n'est pas seulement le procès d'un homme.
Effectivement, c'est aussi un moment important pour comprendre l'histoire de la Shoah.
Et surtout, il montre l'importance de la justice et de la mémoire pour les générations suivantes.
Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Jessim,
Rida
et Maxence.